Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mon Paris FM hein, dans l'émission Hors les Murs. On est actuellement à la cité de refuge de l'armée du salut dans le 13e arrondissement pour l'événement spécial Santé des femmes, une journée de mobilisation et de prévention. Et avec moi, l'association Kainos Asso. Comment ça va mesdames?
Ça va très bien et toi?
Ça va, est-ce que on se tutoie?
On peut
se tutoyer?
C'est vrai que j'ai pris les devants, mais on peut.
Est-ce que chacune d'entre vous peut se présenter?
Alors, moi, je m'appelle Célia Malanda et je suis fondatrice de l'association Kainos Asso.
Moi, c'est Marceline Blazer et j'aide Célia sur son association.
Ok. Est-ce qu'on peut nous parler de Kainos Asso? C'est quoi Kainos Asso? Pourquoi tu as créé cet asso?
Ouais.
De quoi ça parle?
Alors, Kainos Asso, donc, c'est une association d'insertion par le sport au travers du handball à destination des jeunes. Donc, les jeunes de façon globale, mais en priorité, les jeunes qui sont isolés, qui sont en situation de précarité, qui résident dans les quartiers prioritaires de la ville ou les établissements scolaires, donc, qui relèvent en priorité du réseau d'éducation prioritaire. Donc, en fait, au travers de cette association, nous souhaitons rendre la pratique sportive accessible, le tout combiné à un accompagnement scolaire, professionnel et médical, donc dans l'aspect médical, surtout la santé mentale. Et enfin, on souhaite aussi favoriser la restauration du lien familial en incluant les parents dans ce processus d'insertion.
Et pourquoi le handball n'est pas un autre sport ?
Alors, le handball, parce que je fais du handball depuis 16 ans. Marceline fait aussi du handball. Depuis combien de temps, Marceline ?
Depuis une petite dizaine d'années, je dirais.
Ouais. Ça fait un bon moment qu'on fait du handball et on est aussi éducatrice sportive dans notre club. Donc, on encadre, j'encadre la catégorie des moins 13 féminines et des seniors masculins 4. Mais Marceau m'accompagne beaucoup quand j'organise des tournois, des événements à destination des équipes.
Et comment elle te vient l'idée de création de cet asso? Qu'est-ce qui a créé le déclic chez toi?
Alors, ce qui a créé le déclic, c'est le fait que déjà, d'une part, je sois éducatrice sportive et j'ai été face à des jeunes, en fait, qui ont été, qui ont utilisé le handball comme une sorte d'échappatoire. Donc, j'ai vu les bienfaits que ça avait eu sur eux et aussi parce que j'ai été animatrice et je me suis dit qu'il y a quand même pas mal de jeunes qui ont du talent en eux, beaucoup de potentiel et, en fait, tout ce qui est en eux est sous forme brute et au travers de l'association, l'objectif c'est de tailler entre guillemets ce qui est en eux afin de pouvoir faire ressortir tout le potentiel qui est en eux. Donc, c'est pour ça que le sport étant vecteur d'insertion, je me suis dit que ce serait pas mal de combiner les deux pour en faire quelque chose de bien.
Et les jeunes que vous rencontrez ou que tu as pu rencontrer tout au long de ton parcours, c'est quoi les problématiques qui reviennent?
Les problématiques, c'est surtout l'estime de soi. L'estime de soi, la confiance en soi, c'est ça, ouais. La confiance en soi, donc c'est pour ça qu'on souhaite aborder l'aspect santé mentale. Donc les problématiques, ouais, surtout l'estime de soi. C'est surtout ça, l'estime de soi, la confiance, le rapport à son corps, le rapport à soi-même que les jeunes peuvent avoir. En fait.
On le disait, aujourd'hui on est à l'Armée du Salut, on est à un événement Santé des Femmes. Je crois que vous organisez quelque chose ce week-end, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Oui, exactement, donc Marceau si tu veux.
On organise un tournoi pour les entre 10 et 16 ans, juste pour les filles, pour les jeunes filles. Ce sera un tournoi de handball organisé dans le 2e arrondissement.
Voilà, c'est ça. Enfin, c'est un tournoi solidaire féminin. Donc, l'objectif, c'est déjà de mélanger un petit peu les jeunes filles qui viennent de divers horizons. Donc, il y aura des jeunes filles qui font déjà un petit peu de handball, des jeunes filles qui commencent, des jeunes filles qui ne connaissent pas du tout la pratique. Donc, l'objectif, c'est de permettre qu'il puisse y avoir un moment qui soit assez convivial et tout autour du sport. Et à la fin, on fait un petit goûter parce que à chaque fois qu'il y a à manger, ça marche bien. Donc, c'est toujours plus facile autour de la nourriture. Donc, le handball au début, puis aussi faire promouvoir, enfin, commencer à mettre en place des actions de l'association. Et le mois de mars étant un peu le mois réservé aux femmes, entre guillemets, où les femmes sont mises à l'honneur, notamment du fait du 8 mars, nous avons décidé d'orienter ce tournoi pour les jeunes filles.
Et il y a combien de jeunes qui sont attendus, de jeunes filles du coup?
Alors là, pour le moment, donc j'attends encore le retour d'un centre Paris Anime, mais on est pour le moment à une vingtaine de jeunes filles.
Ok, c'est pas mal, c'est même très très bien cet événement. Est-ce que, pour finir, une dernière question, tu le disais, tu as fait du handball pendant 16 ans, Marceline une dizaine d'années, est-ce que vous diriez qu'il y a plus de difficultés pour une femme de s'affirmer dans ce sport-là, ou de le faire, ou d'avoir les portes ouvertes, ou pas du tout, pas forcément?
Alors, je pense qu'il y a quand même un peu de difficultés, parce que... Alors, je parle vraiment d'un constat qui n'est pas une vérité générale, mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, des fois, on a tendance à s'auto-censurer. Donc déjà, il y aurait peut-être une première barrière qui ferait que, bah non, je ne vais pas faire du sport, parce que je ne vais pas faire ce type de sport, notamment le handball, parce que c'est peut-être un sport où il y a du contact, une certaine agressivité, entre guillemets, donc peut-être réservé aux garçons. Donc il y a déjà cette première barrière mentale, si je peux dire, qui fait que... les filles ne se dirigeraient peut-être pas forcément vers la pratique du handball. Et ensuite, bon, il va y avoir aussi d'autres problématiques qui ont attrait à l'accessibilité financière aussi, qui peuvent être un frein. Donc je pense que ces choses-là vont freiner entre guillemets, l'orientation vers le sport, en fait. Vers le sport et le handball.
Et Kaino Sasso est là pour déconstruire
tout
ça et rendre ce sport accessible à tous. Bah, merci à vous, merci mesdames. Aussi. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous avez un site internet, réseaux sociaux?
Alors, on a un site internet, kainosasso.com, et on a un site Insta. Donc, on a un compte Instagram, Kaino Sasso, donc K-A-I-N-O-S. On l'a refait. Alors, K-A-I-N-O-S-A-2-S-O, et le tiré du 8.
Ok, bah c'est noté, on le mettra également en description de ce podcast. Merci encore à vous et plein de belles choses pour la suite.
Merci beaucoup.
Hors les murs, hors les murs.
Toujours sur Mon Paris FM, on est toujours à l'armée du salut. Samuel et Fleur m'ont rejoint. Samuel qui est responsable service relations entreprise pour l'assurance maladie. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Et également Fleur qui travaille pour Médecins du Monde. C'est quoi vos missions, Fleur, exactement?
Alors moi, je suis coordinatrice du programme Lotus Bus chez Médecins du Monde.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence ici aujourd'hui, Samuel?
Bah, c'est simple, c'est la santé des femmes. L'assurance maladie, on a fait un forum santé femmes en septembre dernier, grand public, et il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour... la santé des femmes des plus précaires. Donc du coup, grâce à la Cité du Refuge et la Cité des Dames, et on est là avec plaisir. Voilà. Et juste pour faire de l'information, du conseil et de l'orientation sur l'accès aux soins, l'accès aux droits, la prévention en santé, enfin tout ce qui les regarde.
Et au quotidien, comment ça se passe à l'assurance maladie? Comment vous faites ça? Comment vous organisez tout ça?
Comment on organise tout ça? Bah, déjà, on va chercher des partenaires. On a besoin de partenaires pour effectivement travailler, connaître les problématiques des personnes qui sont en difficulté d'accès aux droits, difficulté d'accès aux soins. Donc on a des multiples partenaires. On va chercher et on essaye de surtout d'aller vers les personnes. C'est-à-dire que les personnes ont du mal à aller vers les institutions. Ça fait peur et on ne sait pas comment trop parler aux institutions. Et quelquefois, les institutions ne savent pas trop parler aux personnes non plus. On fait de l'aller vers. Donc, grâce à des partenaires comme l'atelier Santé Ville du 13e à Pierre Battista, on est là, il nous a invités. Donc, on est là avec plaisir. Et puis, on essaye d'adapter notre offre, effectivement, aux problématiques et à ce qu'on a pu identifier et ce que les partenaires ont pu identifier pour nous aussi.
On l'a vu, vous avez un stand ici, du coup. Qu'est-ce qu'on trouve au stand? Qu'est-ce que vous présentez? Enfin, quand on vient vous voir, c'est quoi que vous nous dites concrètement?
On vous dit quoi? Déjà, on vous pose des questions. Est-ce que vous avez des droits? Est-ce que vous avez la carte vitale? Non. Est-ce que vous avez l'aide médicale d'État? Est-ce que vous avez des problématiques de santé? Est-ce que vous avez des problématiques de soins? Et donc, on essaye d'y répondre, de conseiller, d'orienter. Donc, on a plein d'offres à promouvoir, comme nos agences, comme des examens de prévention en santé, comme des dispositifs comme la complémentaire santé solidaire. Donc on essaye d'identifier, de discuter, de s'entretenir avec les personnes et d'identifier... ce dont elles ont besoin pour y répondre. Après, quelquefois, on ne peut pas répondre à tout sur le stand lui-même. Et donc, on peut prendre les coordonnées, on peut donner des rendez-vous en agence. Et puis, on a aussi un service qui s'appelle Mission Accompagnement Santé. On peut passer les coordonnées des personnes qu'on a rencontrées. Si elles ont des problématiques, par exemple d'accès aux soins, qu'elles n'ont pas de médecin traitant, qu'elles recherchent un médecin spécifique, eh ben, elles passent par la mission accompagnement santé qui rappelle ces personnes et qui les guide, les accompagne jusqu'à l'obtention du soin.
Et dans ceux qui viennent vous voir de manière générale, que ce soit sur les stands ou en agence, est-ce que vous avez un profil type de personne et est-ce que vous avez des problématiques qui reviennent plus souvent que d'autres ?
Un profil type, on n'aimerait pas en avoir. C'est-à-dire que, alors, on est là pour travailler et pour accompagner les personnes qui sont les plus éloignées du soin et du droit. Donc forcément, c'est des personnes les plus précaires. Voilà. Donc, mais on n'aimerait pas, stigmatiser, on n'aimerait pas avoir un public cible. On accueille tout le monde. Voilà. Et quelquefois, parce que si on cible trop, on risque d'oublier des personnes.
Aussi de mettre de côté.
De mettre de côté, voilà, et de passer à côté de personnes en besoin. Donc voilà, donc public cible, on n'aimerait pas, mais c'est les plus démunis. Voilà. Et la deuxième partie de la question,
c'est quelle problématique revient le plus souvent dans ceux qui viennent vous voir ?
Pour certains, des difficultés d'accès au droit, parce que je ne comprends pas ce qu'il faut faire, je ne comprends pas les critères d'accès, et je n'ai pas forcément les documents que le droit français impose. Donc voilà. Donc on essaye de travailler avec pour essayer de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été faites, mais qui sont disponibles. Et puis, au-delà de ça, les solutions, les problématiques qui reviennent le plus souvent, difficulté d'accès aux soins, médecins traitants, des médecins de secteur 2, beaucoup à Paris, donc très chers et mal remboursés. Et puis, quelques professionnels de santé qui font des refus de soins. Qui refusent des personnes qui sont à la complémentaire santé solidaire, à l'aide médicale d'État. Voilà, donc on essaie de combattre, effectivement, enfin d'identifier ces personnes et puis on essaie de, voilà, d'essayer de modifier les choses. Voilà, donc ça, c'est les plus grosses problématiques des gens les plus démunis qu'on peut voir là. Après, des grosses problématiques, les grosses problématiques financières, l'accès aux soins, c'est le dentaire. Voilà. Bon, après, il y a le 100% santé. Il y a des dispositifs, on essaie d'expliquer, d'orienter dans les bonnes structures, et voilà.
Ok. Flore, vous travaillez pour Médecins du Monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que fait Médecins du Monde ?
Oui, bien sûr. Donc, je travaille pour le programme Lotus Bus de Médecins du Monde. Donc, on est un programme de réduction des risques qui promeut l'accès aux droits et aux soins des travailleuses du sexe chinoises. Et on est là notamment dans le 13e, parce que dans le 13e, il y a des femmes travailleuses du sexe chinoises qui sont présentes. Donc du coup, nous, on est un programme de réduction des risques, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour les faire sortir du travail du sexe, on n'est pas là pour leur faire modifier leur mode de vie, mais on est là dans une perspective de non-jugement pour leur apporter le plus d'informations possibles et d'éléments possibles pour qu'elles réduisent les risques liés à leur activité. Donc nous, au programme Lotus Bus, on a deux grandes sortes d'activités. On a l'accompagnement en santé sexuelle et reproductive et on a le suivi des personnes qui ont subi des violences dans le cadre du travail du sexe. Donc il faut savoir que les femmes chinoises qui travaillent notamment dans le 13e, c'est des femmes qui vont faire une migration économique depuis la Chine pour arriver en France, pour en fait avoir de l'argent à renvoyer à leur famille et qui sont restées en Chine. Et en fait, en arrivant, elles se rendent compte pour la plupart qu'elles sont en situation irrégulière et donc elles n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail. Du coup, il y en a qui vont parfois d'abord faire un peu des petits jobs, sauf qu'elles vont être très exploitées dans le petit job, par exemple être nounou, ou elles vont être sous-payées, ou elles vont parfois même être séquestrées par des familles, donc dans des conditions très difficiles de travail. Et du coup, ensuite, par le bouche à oreille, elles vont prendre connaissance du travail du sexe et elles vont commencer à exercer le travail du sexe, mais de manière indépendante. C'est-à-dire que pour l'immense majorité, en tout cas, des travailleuses du sexe chinoises qu'on rencontre...
C'est pas un réseau qui gère...
Exactement, c'est pas un réseau. Elles travaillent de manière indépendante, bien sûr, dans la fenêtre d'indépendance qui est la leur. Parce que pour la plupart, c'est une stratégie de survie, mais elles le font, du coup, de manière indépendante. Donc en fait, nous, notre travail, donc, comme je disais, il y a tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Donc on va faire de la prévention en santé sexuelle et reproductive. On va orienter justement pour obtenir des droits de couverture maladie avec la CEPAM notamment. Enfin, que avec la CEPAM d'ailleurs. On va faire de la coordination du parcours de soins. On va orienter les femmes vers nos partenaires des centres en santé pour des consultations gynécologiques et des dépistages. Et on va aussi accompagner pour des suivis un peu plus poussés, notamment vers les hôpitaux, pour toujours ce qui est santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe de travail, c'est donc le suivi des personnes qui ont subi des violences dans le cadre du travail du sexe. C'est-à-dire que quand des femmes, je dis femmes parce qu'on reçoit que des femmes nous au Lotus Bus, si elles subissent des violences dans le cadre de leur travail, elles vont venir nous voir et on va les informer sur leurs droits. On va, y a une prise en charge aussi par des bénévoles psy, parce que nous, on travaille beaucoup avec des bénévoles, enfin, on travaille avec des salariés et beaucoup de bénévoles chez Médecins du Monde. Et ensuite, si les personnes veulent porter plainte, on va les accompagner dans l'organisation du dépôt de plainte. Ensuite, on travaille avec tout un groupe d'avocats et d'avocates vers lesquels on va orienter ces femmes et les accompagner souvent pour faire la traduction, pour faire la médiation. Et on va aussi ensuite les accompagner aux audiences, s'il y a des audiences, les accompagner aussi après pour récupérer les indemnisations qui ont été allouées par le tribunal.
Ah, donc il y a un accompagnement aussi juridique
Oui, okay. C'est ça.
Et quand vous venez dans ce genre d'événement comme on est là aujourd'hui, vous essayez de... le message s'adresse à qui ? C'est qui qu'on essaye d'attirer à votre stand ?
Oui, bah là aujourd'hui c'est un petit peu pour parler justement aux professionnels de santé qui sont là, okay. Aux personnes qui vont passer, parce qu'en fait chez Médecins du Monde on fait un plaidoyer travail du sexe, parce qu'il y a des lois qui sont en fait néfastes pour les travailleuses du sexe. La loi française, notamment certaines dispositions de la loi de 2016 qui pénalise le client des travailleuses du sexe est néfaste, parce que du coup, vu que c'est le client qui a un risque pénal, et bah, du coup, il va avoir moins de clients, donc moins de possibilités pour les travailleurs du sexe de choisir leurs clients. Leur client, vu que c'est lui qui supporte le risque, ils vont parfois négocier des prix à la baisse, négocier certaines pratiques. Et donc ça va avoir pour conséquence de précariser en fait encore plus les travailleuses du sexe, de les fragiliser et de les exposer à des violences. Okay. Donc en fait, nous, on est là pour présenter un peu ce plaidoyer, aussi pour présenter la démarche communautaire de Médecins du Monde, c'est-à-dire qu'on veut mettre les personnes concernées au cœur des dispositifs pour qu'elles soient actrices de leur parcours de santé et de leur parcours juridique. Et notamment, on soutient aussi l'association communautaire des Roses d'Acier, qui est donc une association par et pour les personnes concernées, qui développe ses activités, et qui est notamment à Belleville, mais qui est aussi active dans le 13e, auprès des femmes qui travaillent dans le 13e.
Ok. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos, ce qu'on disait tout à l'heure, accès aux droits, etc. Est-ce qu'on peut les retrouver sur le site de l'assurance maladie ?
Déjà, on le retrouve sur amélie.fr, okay. Alors, d'une manière générale, hein, pour l'ensemble de la France, mais... Alors après, pour les partenaires, on a un site d'information sur lequel ils peuvent s'inscrire. Et je ne l'ai pas en tête forcément, puisque vous me prenez de court. Voilà.
On le mettra en description du podcast.
Merci.
Il n'y a pas de quoi. Et pour vous ?
Oui, bah nous, tout est sur le site de Médecins du Monde, médecinsdumonde.org.
Ok, bah top. Bah merci à vous deux.
Merci à vous.
Hors les murs, les murs.
Toujours sur Mon Paris FM, on est toujours à l'armée du salut. Samuel et Fleur m'ont rejoint. Samuel qui est responsable service relations entreprise pour l'assurance maladie. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Et également Fleur qui travaille pour Médecins du Monde. C'est quoi vos missions Fleur exactement ?
Alors moi je suis coordinatrice du programme Lotus Bus chez Médecins du Monde.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison de votre présence ici aujourd'hui Samuel ?
Bah, c'est simple, c'est la santé des femmes. L'assurance maladie, on a fait un forum santé femmes en septembre dernier, grand public, et il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose pour la santé des femmes des plus précaires. Donc du coup, grâce à la Cité du Refuge et la Cité des Dames, et on est là avec plaisir. Voilà. Et juste pour faire de l'information, du conseil et de l'orientation sur l'accès aux soins, l'accès aux droits, la prévention en santé, enfin tout ce qui les regarde.
Et au quotidien, comment ça se passe à l'assurance maladie ? Comment vous faites ça ? Comment vous organisez tout ça ?
Comment on organise tout ça ? Bah déjà, on va chercher des partenaires. On a besoin de partenaires pour effectivement travailler, connaître les problématiques des personnes qui sont en difficulté d'accès aux droits, difficulté d'accès aux soins. Donc on a des multiples partenaires. On va chercher et on essaye de surtout d'aller vers les personnes. C'est-à-dire que les personnes ont du mal à aller vers les institutions. Ça fait peur et on ne sait pas comment trop parler aux institutions. Et quelquefois, les institutions ne savent pas trop parler aux personnes non plus. Donc, on fait de l'aller vers. Donc, grâce à des partenaires comme l'Atelier Santé Ville du 13e à Pierre Battista, on est là. Il nous a invités. Donc, on est là avec plaisir. Et puis, on essaye d'adapter notre offre, effectivement, aux problématiques et à ce qu'on a pu identifier et ce que les partenaires ont pu identifier pour nous aussi.
On l'a vu, vous avez un stand ici du coup. Qu'est-ce qu'on trouve au stand ? Qu'est-ce que vous présentez ? Enfin, quand on vient vous voir, c'est quoi que vous nous dites concrètement ?
Ah ben, on vous dit quoi? Déjà, on vous pose des questions. Est-ce que vous avez des droits? Est-ce que vous avez la carte vitale? Non. Est-ce que vous avez l'aide médicale d'État? Est-ce que vous avez des problématiques de santé? Est-ce que vous avez des problématiques de soins? Et donc, on essaye d'y répondre, de conseiller, d'orienter. Donc, on a plein d'offres à promouvoir, comme nos agences, comme des examens de prévention en santé, comme des dispositifs comme la complémentaire santé solidaire. Voilà, donc on essaye d'identifier, de discuter, de s'entretenir avec les personnes et d'identifier ce dont elles ont besoin pour y répondre. Après, quelquefois, on ne peut pas répondre à tout sur le stand lui-même. Et donc, on peut prendre les coordonnées, on peut donner des rendez-vous en agence. Et puis, on a aussi un service qui s'appelle Mission Accompagnement Santé. On peut passer les coordonnées des personnes qu'on a rencontrées. Si elles ont des problématiques, par exemple d'accès aux soins, qu'elles n'ont pas de médecin traitant, qu'elles recherchent un médecin spécifique, elles passent par la mission accompagnement santé qui rappelle ces personnes et qui les guide, les accompagne jusqu'à l'obtention du soin.
Et dans ceux qui viennent vous voir de manière générale, que ce soit sur les stands ou en agence, est-ce que vous avez un profil type de personnes et est-ce que vous avez des problématiques qui reviennent plus souvent que d'autres ?
Un profil type, on n'aimerait pas en avoir. C'est-à-dire que, alors, on est là pour travailler et pour accompagner les personnes qui sont les plus éloignées du soin et du droit. Donc forcément, c'est des personnes les plus précaires. Mais on n'aimerait pas stigmatiser, on n'aimerait pas avoir un public cible. On accueille tout le monde, voilà. Et quelquefois, parce que si on cible trop, on risque d'oublier des personnes.
De mettre de côté.
De mettre de côté, voilà, et de passer à côté de personnes en besoin. Public cible, on n'aimerait pas, mais c'est les plus démunis. Voilà. Et la deuxième partie de la question,
c'est quelle problématique revient le plus souvent dans ceux qui viennent vous voir ?
Pour certains, des difficultés d'accès au droit, parce que je ne comprends pas ce qu'il faut faire, je ne comprends pas les critères d'accès, et je n'ai pas forcément les documents que le droit français impose. Donc voilà. Donc on essaye de travailler avec pour essayer de trouver des solutions. Donc aujourd'hui, il y a des solutions qui ont été faites, mais qui sont disponibles. Et puis, au-delà de ça, les solutions, les problématiques qui reviennent le plus souvent, difficultés d'accès aux soins, médecins traitants, des médecins de secteur 2, beaucoup à Paris, donc très chers et mal remboursés. Et puis, quelques professionnels de santé qui font des refus de soins. Qui refusent des personnes qui sont à la complémentaire santé solidaire, à l'aide médicale d'État. Donc on essaie de combattre, d'identifier ces personnes et puis on essaie d'essayer de modifier les choses. Ça, c'est les plus grosses problématiques des gens les plus démunis qu'on peut voir là. Après, des grosses problématiques, financières, l'accès aux soins, c'est le dentaire. Voilà. Bon, après, il y a le 100% santé. Il y a des dispositifs, on essaie d'expliquer, d'orienter dans les bonnes structures, et voilà.
Ok. Flore, vous travaillez pour Médecins du Monde. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce que fait Médecins du Monde ?
Oui, bien sûr. Donc, je travaille pour le programme Lotus Bus de Médecins du Monde. Donc, on est un programme de réduction des risques qui promeut l'accès aux droits et aux soins des travailleuses du sexe chinoises. Et on est là notamment dans le 13e, parce que dans le 13e, il y a des femmes travailleuses du sexe chinoises qui sont présentes. Donc du coup, nous, on est un programme de réduction des risques, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour les faire sortir du travail du sexe, on n'est pas là pour leur faire modifier leur mode de vie, mais on est là dans une perspective de non-jugement pour leur apporter le plus d'informations possibles et d'éléments possibles pour qu'elles réduisent les risques liés à leur activité. Donc nous, au programme Lotus Bus, on a deux grandes sortes d'activités. On a l'accompagnement en santé sexuelle et reproductive et on a le suivi des personnes qui ont subi des violences dans le cadre du travail du sexe. Donc il faut savoir que les femmes chinoises qui travaillent notamment dans le 13e, c'est des femmes qui vont faire une migration économique depuis la Chine pour arriver en France, pour en fait avoir de l'argent à renvoyer à leur famille et qui sont restées en Chine. Et en fait, en arrivant, elles se rendent compte pour la plupart qu'elles sont en situation irrégulière et donc elles n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail. Du coup, il y en a qui vont parfois d'abord faire un peu des petits jobs, sauf qu'elles vont être très exploitées dans le petit job, par exemple être nounou, ou elles vont être sous-payées, ou elles vont parfois même être séquestrées par des familles, donc dans des conditions très difficiles de travail. Et du coup, ensuite, par le bouche à oreille, elles vont prendre connaissance du travail du sexe et elles vont commencer à exercer le travail du sexe, mais de manière indépendante. C'est-à-dire que pour l'immense majorité, en tout cas, des travailleuses du sexe chinoises qu'on rencontre...
C'est pas un réseau qui gère...
Exactement, c'est pas un réseau. Elles travaillent de manière indépendante, bien sûr, dans la fenêtre d'indépendance qui est la leur. parce que pour la plupart, c'est une stratégie de survie, mais elles le font du coup de manière indépendante. Donc en fait, nous, notre travail, donc, comme je disais, il y a tout ce qui est santé sexuelle et reproductive. Donc on va faire de la prévention en santé sexuelle et reproductive. On va orienter justement pour obtenir des droits de couverture maladie avec la CEPAM notamment. Enfin, que avec la CEPAM d'ailleurs. On va faire de la coordination du parcours de soins. On va orienter les femmes vers nos partenaires des centres en santé pour des consultations gynécologiques et des dépistages. Et on va aussi accompagner pour des suivis un peu plus poussés, notamment vers les hôpitaux, pour toujours ce qui est santé sexuelle et reproductive. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième axe de travail, c'est donc le suivi des personnes qui ont subi des violences dans le cadre du travail du sexe. C'est-à-dire que quand des femmes, je dis femmes parce qu'on reçoit que des femmes nous au Lotus Bus, si elles subissent des violences dans le cadre de leur travail, elles vont venir nous voir et on va les informer sur leurs droits. On va, y a une prise en charge aussi par des bénévoles psy, parce que nous on travaille beaucoup avec des bénévoles, enfin on travaille avec des salariés et beaucoup de bénévoles chez Médecins du Monde. Et ensuite, si les personnes veulent porter plainte, on va les accompagner dans l'organisation du dépôt de plainte. Ensuite, on travaille avec tout un groupe d'avocats et d'avocates vers lesquels on va orienter ces femmes et les accompagner souvent pour faire la traduction, pour faire la médiation. Et on va aussi ensuite les accompagner aux audiences, s'il y a des audiences, les accompagner aussi après pour récupérer les indemnisations qui ont été allouées par le tribunal.
Ah, donc il y a un accompagnement aussi juridique
Oui, okay. C'est ça.
Et quand vous venez dans ce genre d'événement comme on est là aujourd'hui, vous essayez de le message s'adresse à qui ? C'est qui qu'on essaye d'attirer à votre stand ?
Oui, bah là aujourd'hui, c'est un petit peu pour parler justement aux professionnels de santé qui sont là, okay. Aux personnes qui vont passer, parce qu'en fait, chez Médecins du Monde, on fait un plaidoyer travail du sexe, parce qu'il y a des lois qui sont en fait néfastes pour les travailleuses du sexe. La loi française, notamment certaines dispositions de la loi de 2016, pénalise le client des travailleurs du sexe est néfaste parce que du coup vu que c'est le client qui a un risque pénal, et bah du coup il va avoir moins de clients, donc moins de possibilités pour les travailleurs du sexe de choisir leur client. Vu que c'est lui qui supporte le risque, ils vont parfois négocier des prix à la baisse, négocier certaines pratiques. Et donc ça va avoir pour conséquence de précariser en fait encore plus les travailleurs du sexe, de les fragiliser et de les exposer à des violences. Okay. Donc en fait, nous, on est là pour présenter un peu ce plaidoyer, aussi pour présenter la démarche communautaire de Médecins du Monde, c'est-à-dire qu'on veut mettre les personnes concernées au cœur des dispositifs pour qu'elles soient actrices de leur parcours de santé et de leur parcours juridique. Et notamment, on soutient aussi l'association communautaire des Roses d'Acier, qui est donc une association par et pour les personnes concernées, qui développe ses activités, et qui est notamment à Belleville, mais qui est aussi active dans le 13e, auprès des femmes qui travaillent dans le 13e.
Ok. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes les infos, ce qu'on disait tout à l'heure, accès aux droits, etc. Est-ce qu'on peut les retrouver sur le site de l'assurance maladie ?
Déjà, on le retrouve sur amélie.fr, okay. Alors, d'une manière générale, hein, pour l'ensemble de la France. Mais... Alors après, pour les partenaires, on a un site d'information sur lequel ils peuvent s'inscrire. Et je ne l'ai pas en tête forcément, puisque vous me prenez de court. Voilà.
On le mettra en description du podcast.
Merci.
Il n'y a pas de quoi. Et pour vous ?
Tout est sur le site de Médecins du Monde, médecinsdumonde.org.
Ok, bah top, bah merci à vous deux.
Merci à vous.
Hors les murs, hors les murs.
Vous êtes toujours sur Mon Paris FM, événement spécial santé des femmes, hein, journée de sensibilisation et de prévention. On touche à la fin de cet événement. Et pour finir en beauté avec moi, Emilia, qui est animatrice de prévention au planning familial. Comment ça va ?
Ça va très bien.
Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter le planning familial ? C'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas ?
Alors le planning familial, c'est une association féministe et d'éducation populaire et qui intervient particulièrement sur la santé sexuelle, le droit des femmes, le droit à disposer de son corps et notamment sur d'accéder à tout ce qui est méthode de santé sexuelle en ce qui concerne par exemple la contraception pour avoir en fait une sexualité libre et choisie. Donc les méthodes de contraception, on peut aussi faire des dépistages chez nous autour des infections sexuellement transmissibles. On peut aussi faire le choix d'avoir un enfant ou pas, et quand il y a une grossesse non désirée, du coup de faire un avortement par exemple. Donc voilà, c'est une association qui est ancienne, qui a commencé par militer pour l'accès à tous ces droits, et aujourd'hui on perdure en continuant de lutter pour les maintenir, voire pour les améliorer, et puis aussi en proposant du coup directement des soins médicaux, et aussi des espaces d'écoute en fait. Tout le monde peut venir nous parler, nous poser des questions sur la vie affective, sur la vie sexuelle, voilà, ou de situations personnelles vécues, ou plus globalement pour avoir de l'information.
Et c'est quoi voilà. Avec quelle problématique viennent les gens ? Enfin, c'est quoi la problématique qui revient le plus souvent sur le devant de la scène quand on vient vous voir ? Et quel est le profil ? Est-ce qu'on a des personnes âgées, moins âgées, plus jeunes, adolescents ?
Et ben en vrai, on peut venir voir le planning familial à tous âges. La vie affective, la santé sexuelle, voilà, c'est des choses qui peuvent être présentes à différents âges. Alors c'est vrai qu'on est très repéré peut-être pour tout ce qui est contraception et avortement, mais en vrai c'est pas du tout les seules raisons pour lesquelles on peut venir nous voir. Donc c'est vrai qu'on a régulièrement des personnes qui viennent pour en tout cas cet accès là faut savoir aussi qu'on peut proposer des soins gratuits, notamment pour les personnes mineures et anonymes aussi, pas que pour les mineurs, mais en tout cas c'est accessible dans les centres de santé sexuelle et les plannings familiaux, voilà, sans d'avoir tous ces soins là donc en tout cas on vient beaucoup nous voir pour ça, et après
l'âge.
Oui, je suis en train de m'y perdre. Et en termes de tranche d'âge, en soi, ça peut être, comme je disais, ça peut être des mineurs. Nous, on va aussi au-devant, on va aussi intervenir pour faire de la prévention auprès des jeunes, souvent, dans des classes. Normalement, on devrait avoir des séances d'éducation à la vie affective et sexuelle dès la primaire. Même si ça ne se met pas en place... Aussi souvent que ça devrait l'être. Et on a des adolescents qui viennent nous voir, et puis des personnes plus âgées en soi. Ça peut être tous les âges, ça peut être des hommes comme des femmes également. Voilà.
Ok. On était avec, juste avant, on était avec la docteure du CEGID qui nous expliquait qu'il y avait une peut-être moins grande vigilance chez les jeunes aujourd'hui sur tout ce qui est IST, MST. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez aussi de votre côté ou pas du tout ? Est-ce que vous avez l'impression que les jeunes sont moins vigilants en tout cas
Alors,
je me présente, je suis Vaina et je travaille aussi au planning familial en tant qu'animatrice de prévention. Je pense que nous, ce qu'on constate, c'est surtout un manque d'information et en tout cas une difficulté à aller trouver de l'information pour ce qui concerne les IST. Et en fait, il y a plusieurs IST qui ne s'attrapent pas de la même manière et parfois on voit des informations contradictoires. Donc nous, c'est plutôt ce qu'on constate, c'est la difficulté à trouver de l'information à un seul endroit. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait une campagne de communication qui s'appelle « Dépister les toutes ». Au sein du mouvement, au sein du planning au niveau national, pour informer sur les IST, sur les moyens de dépister ces IST, et montrer qu'on peut attraper des IST, peu importe son orientation sexuelle, peu importe son genre. Donc c'est plutôt vers ça qu'on constate, nous, en sachant aussi qu'au planning familial, on peut aussi orienter les gens vers des CEGID, puisqu'au planning familial de Paris, on propose seulement des dépistages de deux IST. Voilà.
Pour le reste, du coup, vous redirigez après...
Ouais, c'est ça. En sachant aussi que depuis septembre dernier, il y a des dispositifs qui ont été mis en place qui permettent aux personnes de pouvoir accéder au dépistage des IST en laboratoire sans ordonnance. Donc c'est uniquement pour les personnes qui ont une carte vitale, ce qui crée des inégalités quand même entre les personnes. Mais ça permet de fluidifier et d'augmenter le nombre de lieux où on peut se faire dépister.
Okay. Et pourquoi c'était important pour vous d'être là aujourd'hui et surtout comment on s'organise pour se faire entendre et comprendre des gens qui passent un stand et qui sont là de manière furtive? Comment on fait pour capter leur attention? Je vous voyais tout à l'heure autour de la table, vous leur montriez des choses à gauche à droite, vous discutiez beaucoup avec elles, parce que c'était des femmes en l'occurrence. Comment on fait pour capter l'attention des gens sur un laps de temps comme ça?
Alors nous c'était important d'être ici aujourd'hui aussi par rapport au territoire du 13e arrondissement, parce que du coup au planning familial de Paris on est implanté dans différents arrondissements parisiens et on peut, quel que soit l'arrondissement dans lequel on vit ou même si on habite en dehors de Paris, on peut venir nous voir, ça il n'y a pas de problème. Mais en tout cas on a particulièrement une permanence qui est ouverte les mercredis et les vendredis dans le 13e au niveau de la porte d'Ivry. Et donc c'était pour que des personnes qui habitent en proximité nous repèrent, sachent qu'elles peuvent venir nous voir pour tous les sujets qu'on a pu évoquer dans un premier temps. Et après, c'est vrai que là, l'important pour nous, c'était de... Quels repères, en fait, les raisons pour lesquelles on peut venir nous voir, et puis peut-être de les laisser poser des questions qui peuvent les intéresser. Je pense que c'est comme ça, de manière générale, qu'on intervient, que ce soit là ou quand on va intervenir dans des classes aussi. On essaye d'abord de partir des questions et des préoccupations des personnes qu'on rencontre. Et c'est comme ça qu'on capte d'abord l'attention, et puis effectivement... après qu'on peut rebondir sur des sujets plus largement. Puis là, on permettait aussi aujourd'hui aux personnes de prendre directement rendez-vous avec nous. Okay. Parce que du coup, je l'ai dit, y a des médecins. Alors nous, on n'est pas médecins, on est toutes les deux animatrices de prévention. Mais il y a des consultations médicales. Et ça, c'est sur rendez-vous. Et du coup, il y a certaines personnes qui ont pu prendre directement rendez-vous aussi. Donc voilà. Comme ça, elles pourront venir nous rencontrer.
Et est-ce que c'est gratuit, payant? Est-ce que c'est anonyme, pas anonyme? Ou il y a possibilité d'être anonyme ou pas?
Alors oui, pour les personnes mineures, de manière générale, ce sera toujours anonyme et gratuit. Pour les personnes majeures, si les personnes ont la carte vitale, c'est une possible. On peut être amené à l'utiliser, si elles sont OK de l'utiliser aussi. Voilà, ça leur pose pas de problème, mais on peut aussi, s'il y a des besoins d'anonymat, des fois ça peut être nécessaire de garder l'anonymat par rapport à certaines démarches. On peut aussi réaliser les démarches de manière anonyme. Alors quand je dis gratuit, c'est pris en charge, il y a des soins qui sont pris en charge par la sécurité sociale, mais on a aussi des lois qui permettent la prise en charge de ces soins de manière anonyme et gratuite, en tout cas en ce qui concerne l'avortement et la contraception aujourd'hui.
Donc, voilà. Un mot en plus.
Oui, c'est aussi pour dire qu'on accueille les personnes même si elles n'ont pas de carte vitale. Donc okay. En fait, tout le monde est bienvenu chez nous, peu importe sa situation sociale, administrative, économique.
Et où est-ce qu'on peut vous retrouver justement, pour ceux qui nous occupent, qui sont du 13e
On est situé au 9 Villa d'Est. C'est au niveau du métro Porte d'Ivry, et ne pas hésiter à nous appeler si on ne trouve pas exactement notre porte d'entrée.
Ouais.
Parce que c'est volontairement aussi un endroit... En tout cas, c'est pas forcément toujours très accessible parce que c'est au milieu des tours, et en même temps, ça garantit aussi un anonymat. Voilà.
C'est dans la tour Mantoue.
C'est top. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous,
merci.
Mesdames. On remercie également Léonore qui m'a accompagné dans cette journée, je le disais, à l'armée du Sali, c'était des refuges. Et émission bien évidemment disponible sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et j'en passe. Et sur le site monparisfm.com, prenez soin de vous, protégez-vous. Et on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode de...
Les murs, les murs.
Toujours à l'armée du salut, on est avec les membres du Cégide, avec une médecin. Est-ce que vous pouvez vous présenter?
Oui, bonjour, moi je suis le docteur Jean-Cyan Moncel. Je travaille au centre de santé sexuelle Cégide de la Pitié-Salpêtrière à Paris dans le 13e arrondissement.
C'est quoi vos missions exactement au Cégide?
Alors, les missions du Cégide, il y a pas mal de missions. On fait des missions de prévention, des missions de dépistage. Et puis, on est également un centre de traitement pour tout ce qui est infection sexuellement transmissible. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a pas mal d'infections sexuellement transmissibles. Certaines sont actuellement en recrudescence actuellement, notamment les infections à gonocoque, les infections à chlamydia. On a également une recrudescence de la syphilis. Et puis, on garde toujours, malheureusement, des contaminations également par le virus du VIH.
Okay. Et c'est quoi le profil type des publics qui viennent vous voir? Est-ce qu'on est plutôt axé sur des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes?
Alors, le Cégide est ouvert absolument à tout le monde. C'est un centre qui peut être anonyme si besoin. C'est un centre qui est gratuit, donc on peut faire des dépistages complètement gratuitement. Donc ça peut être particulièrement intéressant pour des personnes qui sont en situation de précarité, mais on peut vraiment accueillir tout public. Puis après, on a des gens qui viennent, ils ont des questions à nous poser, ils n'ont aucun problème de prise en charge sociale, mais ils sont bien sûr les bienvenus dans notre Cégide.
Et justement, c'est quoi les problématiques qui reviennent le plus souvent, les questions qui reviennent le plus souvent? Est-ce qu'il y en a ou pas?
Alors, on a tout type de public. On a des patients qui viennent parce qu'ils ont envie de se faire dépister. Ils n'ont pas de symptômes, mais par exemple, ils sont en train de se mettre dans une relation stable, un besoin qui se ressent d'arrêter le port de préservatifs. Et donc, ils viennent se faire dépister, parfois en couple. Et ça, c'est vraiment une très bonne attitude. Après, on a également d'autres publics qui viennent parce qu'ils ont des symptômes de maladies sexuellement transmissibles. Ça peut être un écoulement, des démangeaisons au niveau génital, des symptômes vaginaux chez les femmes. Et donc, devant la présence de ces symptômes, ils s'orientent vers un centre de dépistage pensant avoir une infection sexuellement transmissible. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir les recevoir, on va pouvoir leur proposer un dépistage par des prises de sang pour chercher, par exemple, le virus du VIH, le virus des hépatites. On va chercher une bactérie également dans le sang, des anticorps pour la syphilis. Et puis, on peut aussi faire des prélèvements qui concernent les symptômes, donc prélever les écoulements, faire des prélèvements vaginaux pour pouvoir identifier le virus ou la bactérie qui est responsable des symptômes. Et puis ensuite, ça nous permettra de pouvoir envisager un traitement adapté.
Est-ce que vous direz que les gens sont beaucoup plus vigilants aujourd'hui qu'à l'époque ?
Alors malheureusement, je ne sais pas pour l'époque, mais je trouve que là, actuellement, on a beaucoup de jeunes qui prennent des risques un petit peu inconsidérés. On a l'impression qu'ils pensent que le VIH n'existe plus, que le VIH c'était très très loin, que le VIH c'était dans les années 80. Et malheureusement, ce que je leur dis souvent, c'est que le VIH, il est toujours là. Il est peut-être un peu caché, mais il est toujours là. Et on continue à avoir des jeunes, malheureusement, qui se contaminent. Alors c'est vrai que moi, il peut m'arriver de voir des jeunes qui viennent me voir et je me rends compte qu'ils prennent des risques. Ils se croient en sécurité, mais ils font des rencontres parfois sur des applications, et ils ont des rapports sexuels non protégés. Donc pour moi, c'est vraiment prendre beaucoup de risques qu'avoir cette attitude.
Donc le message, c'est vraiment de se protéger.
Oui, c'est vrai que si on peut rappeler un message important, c'est la prévention, se protéger. Donc le port du préservatif va protéger non seulement des grossesses, mais également protège contre quasiment toutes les infections sexuellement transmissibles. Donc c'est vraiment ce qu'on peut recommander. Et puis actuellement, il y a des nouvelles possibilités en termes de prévention. Et donc si on voit que des gens s'exposent particulièrement, prennent des risques pour le VIH, il existe maintenant un traitement prophylactique qu'on peut prendre. Donc pour résumer, c'est un traitement contre le VIH qu'on va prendre alors qu'on n'a pas le VIH, mais pour éviter de l'attraper. Donc c'est vrai que si vraiment on sent qu'avec certaines personnes, le port du préservatif ne sera pas possible, dans ce cas-là, on peut être amené à proposer ce traitement qui va être très encadré par des dépistages réguliers, par des vaccinations, parce que j'ai oublié de vous dire, au Cégide, on peut également faire des vaccinations contre certaines maladies sexuellement transmissibles. Donc voilà, ça permettra de bien suivre les personnes, de leur proposer de la prévention, de la vaccination, de la surveillance régulière par des dépistages et de leur proposer ce traitement prophylactique pour éviter qu'ils ne s'infectent si on juge qu'ils prennent trop de risques.
Ok, top. Et vous êtes venu accompagner. Vous faites quoi, vous, exactement? Est-ce que vous pouvez vous présenter au sein du Cégide?
Alors, moi, c'est Cie Dionou. Je suis le médiateur de santé publique du Cégide avec le docteur Moncel à la Pitié-Salpêtrière. Alors, vous allez me poser la question, qu'est-ce qu'un médiateur? C'est un médiateur, c'est un acteur entre deux... un acteur qui est interface entre deux acteurs. Donc, moi, je suis là pour accompagner le Cégide. Tout ce qu'elle vous a expliqué, d'abord, ça veut dire qu'avec les personnes qui vont venir se faire dépister, s'il y a des problèmes de compréhension, de croyances, représentation, des difficultés sociales, de la précarité. Donc moi, je suis là pour travailler sur ces dimensions avec ces personnes, pour que ces personnes puissent être bien dépistées, suivies en matière de santé sexuelle, et accompagner aussi le personnel qui, pour pouvoir comprendre ces personnes qui ont ces problèmes de croyances, culture, précarité, difficulté. En plus, je fais aussi la médiation entre le Cégide. Vous voyez, on est là aujourd'hui. Donc, moi, je dois faire cette médiation entre le Cégide pour que le Cégide sorte hors des murs de l'hôpital. Aujourd'hui, on est à la maison des femmes. Donc, le Cégide s'est déplacé hors les murs de l'hôpital. Donc, moi aussi, mon rôle aussi, c'est de faire cette médiation, aller rencontrer la structure hors des murs de l'hôpital et faire cette médiation, préparer en amont avec les acteurs. Par exemple, on a préparé avec les acteurs d'ici aujourd'hui. Quels sont les outils qu'ils ont besoin? Quelles sont les informations qu'ils ont besoin? Comment il faut adapter les outils, le langage à la population que nous allons rencontrer avec leurs croyances, représentations. Vous avez vu que aujourd'hui, on a plus de femmes aujourd'hui qui sont qui sont musulmans. Donc, comment nous pouvons adapter nos messages à ces dames,
des croyances religieuses.
Donc, il faut tout prendre ça en compte pour que le message puisse bien passer et être optimal. Donc, mon rôle, c'est la médiation, essayer que les deux acteurs, que l'hôpital, le Cégide, sort hors des murs de l'hôpital pour pouvoir faire son travail, aller vers la population, parce que nous savons que les populations que nous rencontrons ici, souvent, n'ont pas l'idée d'aller, de traverser les murs de l'hôpital. Donc, ils attendent, c'est à la dernière minute, aux urgences qu'on les récupère souvent. Et pourtant, si on était allé vers ces populations et aller les dépister tôt, on pouvait éviter ces hospitalisations en urgence.
Okay. On est également avec Paul. Est-ce que tu peux nous rappeler ton asso?
Alors bonjour, moi c'est Paul Sen et je suis représentant de l'association RJD13, qui est le rassemblement de jeunes déterminés du 13e. En gros, on est une nouvelle structure dans le 13e de jeunes. On accompagne les jeunes, on les mobilise autour de projets fédérateurs, ludiques et innovants. Et on fait aussi de l'insertion.
Et est-ce que dans les jeunes que toi tu rencontres, est-ce qu'il y a cette question aussi qui revient de la sexualité, des maladies sexuellement transmissibles? Est-ce que c'est des sujets qui reviennent à toi? Et comment toi tu fais le lien entre ces jeunes-là du coup et des structures comme le Cégide?
Évidemment que c'est un sujet qui revient énormément. On a fait un projet qui s'appelle Addictosport. Addictosport qui lie la santé, le sport et l'insertion. Mais là, sur le sujet de la santé, il y a beaucoup de questions comme ça qui reviennent sur la santé sexuelle, les addictions, les IST et autres. On a fait d'ailleurs une réunion avec le Cégide à la Salpêtrière, dont le groupe des jeunes s'est rendu. Ça s'est super bien passé, ils ont beaucoup été sensibilisés sur la question. Et ils ont eu plein de réponses sur les questions qu'ils pouvaient se poser et sur lesquelles ils n'avaient pas de réponse, justement.
Pour finir, docteur, quel message on peut passer à l'ensemble de la population, de ceux qui nous écoutent, de ceux et celles qui nous écoutent, et plus particulièrement aux jeunes? Vous le disiez, il y a un manque de vigilance accrue de plus en plus. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour terminer, et où est-ce qu'on peut vous retrouver surtout?
Je leur dirais de bien faire attention à la prévention. Le port du préservatif me semble vraiment fondamental. Après, surtout de se faire dépister régulièrement. Donc, pas hésiter à venir soit au Cégide, soit maintenant, il existe des possibilités de dépistage gratuit dans les laboratoires. Donc, il suffit pour les jeunes de pousser la porte du laboratoire et ils peuvent se faire dépister non seulement contre le VIH, mais également contre les autres maladies dont on a parlé tout à l'heure. Et je leur dirais que la porte de notre Cégide est ouverte, notamment s'il y a des problèmes de symptômes de maladies sexuellement transmissibles. Ils peuvent venir au Cégide à nos horaires d'ouverture, c'est sans rendez-vous, et j'espère qu'ils y seront toujours bien accueillis.
Et on le rappelle, c'est gratuit et anonyme. C'est important.
L'anonymat peut être proposé, c'est selon la volonté du patient en fait.
Ok, c'est génial. Merci à vous trois.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Thank you.